Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aygouin.
Allez, c'est parti pour le meilleur du Super Moscato Show ce mardi 28 juillet. Sous le cagnard pour certains,
oh,
bien
oui.
sûr, les pieds dans l'eau, on vous le souhaite en tout cas. Vous avez forcément votre casque sur les oreilles pour écouter le Super Moscato Show de 15h à 18h avec Adrien.
Salut Pierrot, et puis on oublie d'en parler toujours parce qu'il y a des gens qui travaillent. En fait, il y a la plupart des gens qui travaillent pendant les vacances.
Tu sais, maintenant avec le télétravail, certains sont au bord de leur piscine,
oui,
dans leur demeure, dans les Cévennes ou où encore.
Alors quand tu es commercial et que tu as une voiture, tu écoutes le Moscato Show, tu travailles comme toute l'année et soyez pas inquiets. Chers commerciaux, eh bien c'est le meilleur du Moscato Show. Vous allez revivre des moments mythiques.
Et puis au pire, vous le podcastez en rentrant du travail si vous pouvez pas l'écouter en direct, comme vous, c'est le cas pour certains.
Vous brosse-castez, on dit dans le Moscato Show. Hein.
Alors au programme aujourd'hui, on va vous rediffuser un débat qui fait déjà partie de l'histoire du Super Moscato Show, qui est devenu mythique. C'est le débat dans lequel Eric Dimeco a reçu le qualificatif de Formule X.
Oui, voilà. Il n'était pas content.
C'était après le premier Grand Prix de la saison. Il y avait une discussion très très animée sur l'intérêt de cette Formule 1. Donc c'est à 17h. À 16h, il y a aussi un moment mythique. Mais alors là, c'est plus dans l'histoire des PSG-OM. C'est le chambrage de Dembélé à propos de Balerdi.
Oui.
Il s'adresse à Hubert Gilidim. Il est nul,
il est nul.
Balerdi.
Il est nul. Il revient vers lui et lui dit mais tu le sais en plus, toi, tu le sais.
Est-ce qu'un Ballon d'Or peut se permettre de faire ça? C'est à 16h. Et puis on va parler des All Blacks. Des All Blacks en crise. Est-ce que c'est vraiment possible tout de suite? Il y aura bien sûr Journal Moyen, première, deuxième édition. Et Kikadi, Adrien?
Oui, Journal Moyen, première édition. C'est notre spécialité. Je sais que tu adores ça, Pierrot. On va voyager dans l'espace. Souviens-toi de la mission Artemis 2. Qui est parti survoler la Lune. On aime bien parler de Lune dans le Super Moscato Show. 16h45, la deuxième édition. Ce sont les meilleurs journaux moyens. C'est un journal moyen du lundi. Donc le lundi, il y a plein de casseroles, plein de saucisses. Rendez-vous 16h45.
Et dans le club Omnisport d'RMC, aujourd'hui, il y aura aussi du badminton, il y aura du ski alpinisme. Il y a un très beau programme.
Oui.
Et puis, comme on vous l'a promis hier, je mets la pression à Suzanne en direct.
Mais oui, mais elle veut pas travailler.
Dans ces best-of, vous aurez de temps en temps des petits cadeaux. Des petites
alertes de Didier Deschamps.
De Didier Deschamps, totalement gratuites.
Des alertes.
Voilà, ce sera totalement gratuit. Des classiques, des moins connus.
Mais non, mais il est plus sélectionneur. C'est pour lui rendre hommage, en fait.
Non, mais c'est notre plaisir.
Ça me fait du mal de dire.
C'est gratuit.
Ça me fait vraiment du mal de dire il n'est plus sélectionneur.
Ne t'inquiète pas, il va retrouver un club très vite. C'est peut-être déjà fait.
Allez, on attaque, Hiro, le rugby
les
Blacks.
Allez, les All Blacks en crise, est-ce vraiment possible? Vincent règle le problème.
Les rois. Les seigneurs.
Tom et Fumo.
Ben.
Tom et Fumo.
Les All Blacks.
Oh, il avance, mais fouille là.
Ceux qui ont ancré ce sport dans leur tradition nationale.
Tribal. Grégaire.
On voit très bien leur maillot noir et leur haka inimitable.
Donc t'as des rites, des prières, tu mets tel slip. Alors des fois il pue le slip parce que c'est toujours le même.
Des sportifs poussés à briller.
Tamei Fumo.
Tout cela, ça se voit sur le terrain.
Taimi Fumla.
Ça s'entend. Car les All Blacks, c'est aussi un chant. Vouloir regarder un match des Blacks et louper le haka, c'est rater leur premier essai.
Le rugby, c'est le spectacle.
Le Moscato, il va te le régler le problème.
Nous accueillons Pierre-Laurent Gou du Milan.
Johnny Westmiller, tu l'as entendu?
Oui, salut, on l'a entendu. Salut Pierre-Laurent.
Salut.
Salut Pierre-Laurent. On a sorti le All Black du middle là. Hein, on n'a pas souvent l'honneur d'avoir Pierre-Laurent dans l'émission. Hein. Alors, le sélectionneur des All Blacks viré en plein mandat, c'est incroyable. Rarissime. Du coup, on se pose des questions. D'abord, était-ce nécessaire? Quelle trace a laissé l'humiliation face aux Springboks cet été? Hardy Savea a-t-il eu la tête de Scott Robertson? À 2 ans de la Coupe du Monde, les All Blacks piquent leur crise, mais les All Blacks en crise, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Est-ce simplement vraiment possible? Vincent règle le problème de la crise en Nouvelle-Zélande. Julien Landry va nous en dire plus sur l'éviction de Scott Robertson. Salut Julien.
Ah, dit chat, messieurs.
Parce que la Nouvelle-Zélande qui vire son sélectionneur, c'est presque du jamais vu.
Ouais, c'est même du jamais vu, Pierrot. C'est la première fois que les Blacks virent un sélectionneur en cours de mandat. John Mitchell, lui, avait été poussé à la sortie après la 3e place en 2003, mais c'était la fin de son cycle. Scott Robertson avait pourtant l'adhésion de tout un pays lors de sa nomination. Entraîneur à succès des Crusaders avec 7 victoires consécutives dans le Super Rugby. Victoire ponctuée à chaque fois par une danse au milieu de ses joueurs. Mais le succès n'a pas été au rendez-vous avec les Blacks, même si le bilan n'est pas mauvais. 20 succès en 27 rencontres, mais aucun titre. Et surtout, une année 2025 marquée par une défaite à domicile contre l'Argentine, un gros revers en Angleterre, et tu en as parlé, cette humiliation contre les Box, 43-10 en septembre, encaissant notamment 36-0 en deuxième période. Sans oublier les trois matchs très poussifs contre les jeunes bleus cet été. À l'issue de cette saison, la fédération avait effectué un audit mené par Mills Mouliana, notamment auprès des joueurs. Hardy Savea et les frères Barrett auraient eu des mots très durs pour le sélectionneur. Et même si la fédération se défend du rôle des joueurs dans cette décision, Robertson, qui s'est déclaré profondément déçu, avait contre lui les quatre du vestiaire. À 2 ans de la Coupe du Monde, les Blacks vont donc trouver un successeur. Jamie Joseph, entraîneur d'Highlanders, est le favori. Joe Schmidt revient. Et surtout Vincent, le nom de Verne Cotter circule également.
Oh. C'est génial. Julien, tu me fais magique.
Quelle chute. Non, mais c'est génial parce que Verne Cotter, il n'y a que Vincent qui pense que c'est une pompe dans le monde.
Non, j'ai
pas
jamais dit que c'était le pompe.
Si, tu l'as dit une seule fois.
Mais bon, c'est pas ça.
Toi, compte que même dans le rugby, c'est la République des joueurs.
Ah oui, ça, c'est un vrai sujet.
C'est le sujet sur les
blagues. Non, mais soi-disant, eux, non, mais eux, ils ne font pas eux, ça.
Alors, Vincent.
Notre une petite attaque, une pointe comme ça, l'entend, pam!
Sans aucun effet!
Non, mais après, soyons sérieux, 5 minutes, comment tu analyses cette situation? Parce que, comme le dit Eric, la République des joueurs en rugby, c'est rare. Et puis les All Blacks en crise, ça n'arrive jamais.
Non, mais là, ça ne plaît pas, parce que ce jeu, il s'en sort toujours par des mecs derrière, parce qu'ils sont. Derrière, il y a toujours des extraterrestres, mais devant, c'est un trois quarts qui fait pas le maïs devant, il faut qu'ils aient un gros pas, qu'ils se font secouer par tout le monde en mêlée, donc ça plaît pas. Au bout d'un moment, il y a une vexation qui fait quand, au rugby, quand tu te fais secouer devant, ça va un peu, quand tout est fait pour le jeu, mais pas pour les fondamentaux, quand il n'y a pas les ingrédients, et toutes ces conneries, ça veut dire que t'as pas un paquet solide, mais les Blacks, ils aiment pas ça. À un moment donné, tu te fais secouer par l'Afrique du Sud, 40 de points à la piole, l'Argentine qui te met des trempes en mêlée fermée et que tu perds sur ton terrain, bah, tu peux gagner 20 matchs d'affilée.
Vincent, il était numéro 8 avant contre Robertson.
Il était pas 3.
Il jouait, oui, mais numéro 8, oui, non, mais pas de.
Numéro 8, c'est sur le jeu.
Tout axé sur le jeu. Tout axé sur le jeu, tout ça. À un moment donné, non, mais c'est un bon joueur, il a joué à Perpignan. Tu sais, le blog.
Il a joué à Perpignan. Il est arrivé blessé.
Oui, mais peut-être il est arrivé blessé, mais il est reparti comment blessé.
C'était
aussi.
Il y a longtemps.
Et blessé aussi.
Il a blessé aussi. Donc, il est venu se faire soigner, quoi, encore. C'est nous qui avons payé la sécurité sociale. Et allez, à la fin, voilà. Mais venez tous vous faire opérer à la maison. C'est nous qui payons, les cons.
Dans la mesure où son employeur a cotisé, quel problème?
Quel problème?
Allez, en avance. Donc, Vincent, c'est un problème de mêlée. Denis.
Alors, moi, je suis très étonné parce que c'est un gars qui faisait l'unanimité Adrien.
Au Crusaders,
où il a gagné, je crois, 6 ou 7 titres.
C'est bien sur le ventre, toi,
Capitaine. Non, essayez de vous écouter un peu parce que franchement, c'est difficile de finir une phrase. Là. Denis, vas-y.
Non, mais j'ai eu le plaisir de le rencontrer avec les Barbarians français en 2018, où il était à la tête de cette équipe. Et j'avais parlé un peu avec les joueurs, j'avais parlé avec lui aussi. C'est un mec qui faisait l'unanimité, il était adoré. Donc j'arrive pas à comprendre comment maintenant il fait l'unanimité contre lui. Après attention, si les Blacks ils sont en crise quand même au niveau du rugby. Mmh. C'est ça qu'il faut dire. Donc
tu le penses vraiment?
Ah ben oui, moi je pense qu'ils ont pas. Moi je pense que les joueurs se remettent pas assez en question parce que. Je pense qu'il n'y a pas le réservoir aujourd'hui pour rivaliser contre les Sudaf, tout simplement. Je pense qu'il manque de profondeur.
Devant,
il manque des guerriers, notamment la seconde ligne qu'ils n'ont pas remplacée, qui était une seconde ligne absolument incroyable.
Whitelock, Retallick, tout ça.
Whitelock, Retallick, c'était des monstres qu'ils n'ont pas replacés. Tu sais très bien que c'est la seconde ligne aujourd'hui, au niveau international, c'est indispensable d'avoir des top joueurs dans toutes les équipes. Aujourd'hui, tu ne les as pas. La première ligne, comme dit Vincent, le l'honneur est pas mauvais.
Taylor.
Et encore, les deux piliers, ça fait pas la main.
Je crois
qu'aujourd'hui, ils traversent une crise de génération. Et après, moi, ce qui m'étonne, c'est que les SAVA, les Barrett, ils sont pas très, très bons en ce moment. Ouais. Je crois que moi, je me remettrai en question au niveau du joueur, plutôt que de l'entraîneur.
Le deuxième ligne Barrett, c'est moi.
Non, mais même derrière, Boden Barrett, il a plus le niveau qu'il avait. Donc après, c'est facile après. C'est facile de tuer le joueur. Je trouve que s'ils ont accepté de couper sa tête parce que les joueurs ne le veulent plus, je trouve ça quand même.
C'est dramatique.
Je trouve ça pas pathétique de la part des Blacks, parce que c'est pas leur habitude. Leur habitude en général, c'est quand même d'être fort à la tête ou à la tête. Là, voilà, je sais pas, mais changer.
Une vraie crise.
Changer pour changer aujourd'hui, ça n'améliorera pas le niveau de jeu des Blacks qui est pas bon aujourd'hui.
Pierre-Laurent Gou.
Tout à fait d'accord avec Denis et Eric ouais, le disait. Voilà, c'est une des premières fois la République des joueurs est arrivée chez les Blacks. Et ce qui est surprenant, Denis l'a résumé un peu longuement, pardon Denis, mais c'est vrai qu'il était il était réputé être très proche de ses joueurs les Crusaders. Et en à peine deux ans, il a été lâché par ces mêmes joueurs qui ont demandé sa tête. Ils jouaient pas tous aux Crusaders, mais il a souvent aussi défendu Ardis Avea qui avait été pas mal critiqué après la rouste de cet été face au Sudaf à domicile. Lui a défendu son joueur, son joueur l'a pas défendu. C'est surprenant. Voilà ce qu'on peut dire. On est en train de passer de même la Nouvelle-Zélande et les All Blacks. On passe un step et les joueurs ont eu sa peau.
Eric,
écoute, j'ai pas bien regardé dans l'effectif des Blacks là, mais il y a Mbappé. Non, parce que comme chaque fois qu'un entraîneur se fait virer, c'est de sa faute. Donc je regardais,
s'il a joué à l'aile une fois, mais ça s'est pas bien passé.
Alors écoute-moi, tu m'enlèveras pas de l'idée qu'Mbappé il se met au rugby au bout d'un an là sous les barres. C'est bien le barré de l'autre côté, quoi. Pareil, voilà, c'est pareil. Donc tout ça, écoute, qu'est-ce que tu veux dire de plus que ce que vous avez dit, à part que on a quand même l'impression en effet qu'il y a un creux de génération chez les Blacks. Et que quand tu peux pas produire une grande équipe et des grands joueurs, tu te rabats sur le coach. Alors après, d'après moi, l'explication ne suffit pas. C'est-à-dire que si tu as une creux de génération, mais que ton entraîneur fait l'unanimité, qu'il est entraînant, comme le dit Vincent, qu'il est, y a pas de raison de le virer. Là, d'après moi, c'est que lui a plus, il a dû peut-être se les mettre à dos, ou peut-être que ce qu'il propose,
on ne dit pas que ça vient que des joueurs.
Alors, est-ce que deux ans ça suffit pour être performant à la Coupe du Monde?
Alors moi je rejoins Vincent, ce qu'il disait, il dit il peut y avoir deux trois joueurs qui arrivent des Golgothes, hein, parce que là-bas ils en sortent de partout.
Ils peuvent appliquer dans notre nation, absolument.
Donc non, c'est pas, ils ont deux ans pour se retaper, c'est jouable, mais en tout cas il faudra des nouveaux joueurs, des nouvelles têtes qui soient performantes.
Pierre Laurent,
c'est la fin peut-être d'un système où on pensait que c'était l'alpha et l'oméga, et c'est-à-dire souvent les stars néo-zélandaises, elles venaient plus en France dans le top 14 parce que c'était trop dur faire une pige. Elles allaient faire une pige au Japon, championnat qui paye bien, mais dont on dit que notamment les chocs, voilà. Et donc voilà, on le voit. Vous parliez tout à l'heure de Boden Barrett. C'est vrai que depuis son passage au Japon, c'est plus. Alors il y a peut-être d'autres explications.
Tu as raison,
c'est plus le même joueur. Mais on l'a vu aussi avec des avants.
Et puis ils sont revenus sur la défaite historique qui à Auckland, je crois que c'est à Auckland ou Wellington, je ne sais plus, contre les Sudaf,
40 points.
Ne dis pas que c'est l'entraîneur. Si tu vois le match, c'est quand même. Je suis entièrement d'accord avec toi.
Il y a un creux de génération et les premiers responsables, c'est les joueurs. Mais je crois qu'on a. Voilà, la Nouvelle-Zélande, qui est restée une terre un peu de tradition et assez conservateur sur son rugby, a été rattrapée par 2025.
Ils n'ont pas besoin d'un chef différent, parce que j'ai l'impression, Vincent, ils sont tellement installés, ces joueurs-là, la bande de Barrett, on va dire, en gros, je caricature. Ils ont tellement gagné. Ils sont repus. J'ai l'impression qu'ils vont respecter plus aucun coach. À part Pierre-Laurent, s'il y a une énorme star qui compte, qui accepte de prendre les choses en main, là, toute la génération de 2015 extraordinaire qui a gagné, il y a déjà 10 ans, ils ont tous arrêté. Pourquoi il n'y a aucun qui vient dans le staff? Ils sont où les Macron, les Carter, les Nounous qui veulent entraîner là? Ils sont où les Oumaga?
Ils ont aussi un problème de formation. Ça peut paraître énorme ce que je dis, mais il suffit de regarder, c'est un bon baromètre, le championnat du monde des moins de 20 ans qui a lieu chaque année. Les Blacks ne gagnent plus, ils ne vont même plus en finale.
Ils étaient finalistes au dernier, Pierre-Loup.
Vincent, t'as l'impression que n'importe quel entraîneur qui arrive là, t'as l'impression qu'ils vont le regarder un peu en disant ouais, de toute façon lui, il a moins gagné que nous.
Peut-être aussi, peut-être qu'il y a un manque d'autorité, peut-être que ça vient des dirigeants qui veulent un taulier pour virer les barrettes. Ça aussi, c'est peut-être un truc, parce que peut-être que lui n'a pas osé virer les barrettes, et on dit maintenant, peut-être qu'il va, le prochain taulier qui va arriver va dire aux barrettes, et je savais, le deuxième ligne, parce que le deuxième ligne, quand même,
il
sort en démolition, il est naze. Et donc, ça fait longtemps qu'il joue, s'il avait passé Frangier, il jouerait jamais, lui. Je te le dis, il est mauvais comme une cochon. Et donc, maintenant, vous vous battez. Il vient en équipe de France, il ne joue jamais.
jamais il joue en équipe de France. Donc ça, Retallick et machin, et l'autre à côté, Mortlock, Whitelock, ils n'ont pas été remplacés. La première ligne, c'est mauvais. Je m'excuse, c'est mauvais. Il faut qu'ils trouvent un 5 de devant. Ouais. Peut-être que Robertson
avait. Mais ils n'ont pas de petits gros, ils n'ont plus de petits gros là-bas?
Non, mais le problème, c'est que tout le monde derrière, là-bas, ils veulent faire du flambeau. Tous les Maoris, tout ça, ça veut jouer derrière. Ça veut jouer à la baballe. Ça fait
Fabien,
leur plaisir.
Tu vois,
il va falloir qu'ils trouvent un 5 de devant costaud, parce que c'est là où ils se font. Derrière, ça va. Ils se font déboîter devant.
Les All Blacks en crise, est-ce vraiment possible, Fabien?
Allô, oui, bon, salut, bonjour. Salut les gars, bonne année à tous.
Bonne année.
Les All Blacks n'ont pas de soucis. C'est une crise, c'est une tempête dans un verre d'eau, ça, c'est pas vraiment un problème. Ils ont, comme disait Denis, ils ont du réservoir, ils ont même la possibilité d'aller chercher des Fidjiens, des Tongiens ou des Samoans. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont peut-être besoin de virer les sénateurs là, qui ont trop gagné, qui sont trop bien installés, et qui peut-être même ont pas trop envie de s'y filer. Bon, bah, il faut virer les Barrettes. Bah, on va envoyer le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Ils sont pas devenus nuls non plus, hein, les Barrettes, Fabien. Le Boden Barrette et Jordi Barrette. Oui. Ça va encore, hein.
Pop. Ils ont plus faim. Il faut des mecs qui ont faim sur un terrain de rugby. Et ils ont pas la dalle. Donc, à ce moment-là, t'en trouves d'autres. De toute façon, il y a que les Blacks qui peuvent faire ça. Changer une équipe à 75% en 6 mois, puis arriver rouler sur tout le monde sur une Coupe du Monde, hein.
Ça peut arriver. T'as raison.
Ils sont
capables de faire ça.
Déjà, il y a que s'y retrouver, c'est une équipe qui tient la route, qui aura un peu le travail.
Et là, je ne dis pas pour chauffer Vincent, est-ce que Verne Cotter, par exemple, puisqu'on a entendu son nom, ou Jimmy Joseph, sont capables de faire ça, Pierre-Laurent, de changer 75% de l'équipe? Parce que là aussi, c'est une décision très dure à prendre. Hein.
Non, alors moi, je ne suis pas d'accord avec l'auditeur, notamment pour les Blacks. C'est que potentiellement, oui, le rugby est tellement une religion là-bas que oui, ils sont capables de sortir des talents assez rapidement. Mais si on regarde par le passé ce qui leur est arrivé, l'équipe de 2015 et 2011, c'est la même équipe qui se rate en 2007. Ils ont un rapport hiérarchique, même au poste, où les choses ne se bousculent pas du jour au lendemain. Donc à l'inverse, par exemple, de nous Français ou des Anglais, on peut changer 75% de l'équipe avec des talents et avoir le même niveau. Fred, chez eux, c'est plus compliqué.
Quelle est la
Fred me dit, oui. Fred me dit un truc intelligent, et c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Est-ce que si on mettait Christian Labitte, il a des tatouages et tout déjà.
Ah ben exactement.
Il est très loin. Il est dispo, il est libre en plus.
On sait jamais s'il amène un peu ce jeu de Carcassonne.
Les Néerlandais connaissent le rugby, ils ont affronté Christian Labitte, ils savent quel joueur c'était.
Bien sûr,
il parle anglais, Christian.
Oui, plus il a les bonnes chemises.
Et puis il a son petit short en jean avec le mollet tatoué avec un truc maori qu'on ne sait pas ce qu'il y a marqué dessus, ni lui non plus d'ailleurs.
Bah justement, ça sera l'occasion. Je te dis, peut faire l'affaire. Parce que là-bas, ils sauront ce que ça veut dire.
Ah oui, il arrive, si vous pouvez dire, Depuis, ils ont trouvé un nouveau sélectionneur, Pierrot.
Petit quiz, comment s'appelle-t-il?
Ah, Pierrot.
Dave Rennie,
bien sûr.
Reconnu au bataillon.
Le nouveau sélectionneur de la Nouvelle-Zélande. Dans un instant, Pierrot.
Ah, Christo Popov, l'exploit de Christo Popov qui remporte l'équivalent des Masters en badminton. C'est tout de suite. Et puis, le match, Thiago Silva, Laurent Blanc, qui est le plus fort?
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Le meilleur du Super Moscato Show dans une demi-heure. Un débat sur le chambrage de Dembélé. Un ballon d'or peut-il faire ça? C'était lors d'un douloureux 5-0 face à l'OM. Douloureux pour l'OM, évidemment.
Balerdi, il est nul,
et tu le sais en plus.
Issa Højbjerg.
Aujourd'hui, tout le monde le sait, hein, qu'il est nul, Balerdi.
Même lui, il le sait, je pense. Mais c'est vrai.
C'est affreux ce que tu
dis. Il se dit pas qu'il fait des bonnes saisons quand même, sinon il est dans le déni.
Dans le journal moyen, nous irons sur la Lune.
Sur la Lune, la mission Artemis qui a passionné le Super Moscato Show, le survol de la Lune. Alors Vincent était un peu déçu parce qu'il a suivi l'info à moitié. Il pensait qu'ils allaient sur la Lune. Il m'a dit c'est nul quoi.
Fait le tour de la Lune.
Ouais, tour de la Lune. Vincent, il fait souvent le tour de la Lune.
Allez, tout de suite, on parle badminton. Christo Popov, l'exploit du Français de 25 ans.
Le cri du cœur du Super Moscato Show.
Le cri du cœur du Super Moscato Show. C'est Christo Popov, 7e joueur mondial de badminton à l'issue d'une saison historique, puisque Christo est le premier Français à remporter les World Tour Finals, qui est l'équivalent du Masters en tennis, la compétition de fin de saison avec les 8 meilleurs joueurs du monde. Bonjour Christo.
Bonjour, salut Christo.
Salut. Et félicitations.
Bravo. Et merci de venir dans le Super Moscato Show. Bravo.
Merci beaucoup.
C'est que moi, j'étais pas mauvais au badminton.
Ouais.
J'ai arrêté
j'étais trop jeune.
J'ai surtout pas commencé.
T'étais un badeur, toi.
Ouais, badeur.
Oui, plus qu'un badiste. Ouais. Comment, et pour le grand public, comment tu qualifierais une victoire au World Tour Finals? Ça représente quoi pour vous?
Je pense qu'on qualifie bien de équivalent un peu au tennis des Masters, des Finals. C'est voilà les finales du circuit de l'année. Voilà.
Ça vaut un titre mondial?
En termes de niveau, oui. En termes de performance, non.
D'accord. Et quand tu bats le numéro 1 mondial,
oui.
C'est aussi fort que si tu le bats en championnat du monde?
Cette fois-ci, oui, parce que je l'ai battu chez lui en Chine. Donc je pense que ça a une valeur particulière. Si je l'avais battu quelque part d'autre, ça aurait été différent.
Mais c'est la première fois que tu le battais?
C'est la deuxième fois que je le bats, mais c'est la première fois où j'ai vraiment un statut différent.
Atmosphère hostile là-bas quand tu joues un chinois en Chine?
Oui.
Ouais.
Ouais.
Ah oui. Et c'est ça le plaisir, c'est de le battre chez lui, quoi.
C'est ça. Je l'ai battu. D'ailleurs, les deux seules fois où je l'ai battu, c'est en Chine. Je l'ai battu à Shenzhen, qui était un super 750. C'était en 2023. Et j'ai perdu après trois fois d'affilée, il me semble, 2024-2025. Pendant ces deux saisons-là, juste sur les finals, je regagne en Chine.
C'est dur quand t'as perdu déjà contre un mec comme ça, de revenir. Et alors, à quel moment tu sens qu'il peut craquer? À quel moment tu sens dans la partie que tu peux l'avoir en main?
Je pense que la différence était un peu plus de mon côté. La semaine était vraiment top où j'ai montré un gros niveau. Et je m'étais souvenu que le matin, que la seule fois que je l'ai gagné, c'était en Chine. Et je me suis dit, aujourd'hui, ça va passer.
Ça va passer. Ouais, t'étais en pleine confiance.
Franchement, totalement.
Et quand tu le gagnes, c'est au mental?
Possible, parce que dans ce genre de compétition, les premiers sets sont très importants et je pense qu'avoir avoir gagné ce premier set 21-19, ça m'a mis sur les bons rails.
Est-ce qu'il y a eu un déclic dans ta saison? Parce que ta courbe de performance, quand même, cette saison, elle a explosé. Il s'est passé quelque chose de particulier?
Quelque chose de particulier, plusieurs choses, je pense. Mais déjà, c'était un travail en amont. C'est pas mal de. On a mis les bouchées doubles depuis les Jeux de Paris. On a mis les bouchées doubles à l'entraînement et je pense que des fois ça met du temps à se montrer sur le terrain et en match officiel, et ça a mis presque 6 mois, et petit à petit je suis monté en puissance pendant les mois qui ont suivi, et petit à petit on a monté jusqu'au top 10 mondial.
Parce qu'il s'est passé quelque chose dans le badminton français, puisqu'il y a ton frère Thomas Junior, il y a aussi Alex Lanier. Vous avez tous des performances quand même en évolution très très positive, donc tu l'attribues au travail qui a été mené en amont des JO de Paris?
Oui, c'est ça, ouais. Exactement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail juste après les Jeux de Paris, notamment parce qu'on part sur un autre cycle olympique,
ouais.
Et qu'on s'est terminé, voilà, on n'en parle plus, et maintenant c'est Los Angeles 2028.
Il y avait les championnats du monde à Paris à la rentrée 2025, sur laquelle vous n'avez pas ramené de médaille. Donc je suppose que
on a ramené une médaille,
oui,
en mixte,
ouais. C'est vrai, mais pas en individuel en tout cas. Je suppose que ça a été une déception. Est-ce que malgré tout, ça a permis quand même à votre sport de gagner des parts de marché, si on peut dire, d'exploser en France?
Je pense que oui. Je pense que les championnats du monde ont été incroyables en termes non seulement d'organisation, mais aussi de performance, parce qu'on a une première médaille mondiale en mixte. Et en simple homme, on a trois personnes qui sont allées en huitième de finale et qui sont battues face
avec
à des adversaires très coriaces, numéro 1, 2 mondial et aussi Alex qui s'incline contre un grand chinois. Et on a tous gagné de très peu. Ça aurait pu passer, ça aurait pu faire 3 médailles.
Ça fait un beau lapsus. T'as dit, on a tous gagné de très peu.
Ah, pardon.
On est avec Christo Popov, donc le vainqueur du Masters en badminton.
J'ai l'impression qu'il y a un engouement terrible pour les jeux de raquettes. Tu vois, le paddle, le badminton, le tennis de table. Il y a 10 ans, personne n'en parlait. Même le tennis de table, on en parlait une fois par an, tu vois, parce que nous, à l'époque, il y avait Jacques Secrétin, tu vois, c'était le mec le plus connu, toi, tu ne le connais même pas.
Non, c'était
des sports de loisirs, quoi, tu vois. Je veux te dire, même le tennis, c'était des sports de loisirs, un peu plus le tennis. Mais on n'en parlait pas. Et là, tu fous le bad, on en parle. C'est extraordinaire. Pour vous, vous êtes dans un engouement exceptionnel.
Je pense que ça nous fait beaucoup plaisir.
Ouais,
on parle de nous. On a été longtemps, et je parle pas non seulement pour moi, mais pour les joueurs d'avant qui ont fait quand même les grosses performances de temps en temps.
Ignoré complètement. Et tu viens d'une culture, ton père ou ta mère jouait au badminton?
Mon père jouait beaucoup au badminton.
Il jouait au badminton.
L'histoire de la famille, on peut la rappeler. Vous arrivez de Bulgarie en France quand tu as 2 ans à peu près. Et ton père est embauché à Fos-sur-Mer en tant que prof
dans l'usine de yaourt bulgare.
on y est presque.
Ouais, c'est une histoire familiale. Vous ne pouviez pas échapper au badminton avec ton frère.
Non, on ne pouvait pas. On pouvait pas.
À partir de quel âge ça se passe comment
Honnêtement, dès qu'on est né, on a pris la raquette, je pense. Notre père et notre mère étaient totalement dévoués aussi pour nous, pour le badminton, pour l'école. Et j'étais tout petit à attendre sur les bancs du club de Fos-sur-Mer.
Ah ouais.
Et petit à petit, on prend la raquette, on veut jouer avec les.
Tu vois que t'es pas mal.
Peut-être. On ne sait pas, on ne s'en rend pas compte qu'on est petit, mais on a juste kiffé.
Et tu veux jouer à d'autres sports comme le tennis, par exemple? Est-ce que tu t'es essayé à d'autres sports?
Oui, moi j'adore. Franchement, j'adorais tous les sports petits. On a fait beaucoup. D'ailleurs, à un moment, je voulais prendre une licence de foot parce que tout le monde dans ma classe faisait du foot, tous mes meilleurs amis, et mon père m'a dit non.
Alors, j'espère que quand tu dis à ses potes, moi j'ai fait un badminton. Ah, regarde.
Alors, t'as bien fait de ne pas faire du rugby.
On va parler gabarit parce que dans le Super Moscato Show, c'est toujours un sujet important. Avec ton frère, vous avez deux gabarits totalement différents. Toi, tu es, on le voit, on t'a sous les yeux, tu es plutôt fluet. J'espère que tu le prendras pas mal. Ton frère, c'est plus le modèle armoire à glace. Ça veut dire qu'en badminton, il n'y a pas de morphotype idéal, ça n'existe pas.
C'est vrai. Je pense qu'on peut voir beaucoup de morphotypes très différents et très performants. On a un enchaînement de champions du monde différents. Des carrures très différentes. On avait le Danois qui était super grand et costaud comme mon frère, comme un champion du monde japonais, chinois qui sont juste assez secs et musclés, mais petits.
Enfin, il n'y a pas des mecs comme Alexeyev, l'haltérophile, ils font pas
130 kilos. Mais Christo, on pourrait penser que la taille avantage quand même.
Il y a des avantages et des inconvénients parce qu'ils vont être beaucoup plus lents.
Il faut se déplacer.
C'est ça. Il y a beaucoup de rebonds, il y a beaucoup de sauts, un vent arrière.
Allez chercher comme ça. Tu t'étires un peu le dos des fois comme ça. Ça fait mal.
Il y a des séances kinés pour ça.
Ouais.
La qualité numéro un, c'est le cardio, Christo.
Ça dépend des disciplines un petit peu, je dirais. Simple et double, ça change un petit peu. En simple, beaucoup d'endurance, c'est vrai.
Et souplesse.
Moi, je suis pas très souple, honnêtement.
Ah ouais.
Franchement, je
veux aller chercher les balles loin, tout ça.
Oui, il y a de la souplesse aussi de mouvement.
De mouvement,
Mais maîtrise des fentes avant et des fentes arrière, quand même.
Oui, quand même.
Mais un match, est-ce que c'est très physique? Parce qu'on n'a pas la notion, on regarde. J'aimerais me regarder,
C'est quand même carrément physique. Ouais.
Un match très physique.
Très, très, très physique.
Tu dois y laisser la paillasse à haut niveau.
Oui, mais je demande parce qu'on n'a pas forcément
la sensation.
Ouais,
mais quand tu vois les déplacements et tout, tu te dis les mecs, ils doivent se poser.
C'est quoi la vitesse max d'un volant sur un match?
500. Plus de 500.
Kilomètres-heure. C'est 5 km/h. Putain, tu la prends pas dans l'œil, hein.
Non, mais.
C'est déjà arrivé. J'ai fait un moment donné.
Il faut mettre des lunettes, quoi.
500, c'est à la sortie du tamis.
C'est ça. En sortie de raquette, plus de 500, et après, ça freine progressivement.
Ah oui, parce que c'est le parachute.
Oui, c'est ça, la parachute.
Et dis-moi si je dis une bêtise, mais en simple, c'est beaucoup une alternance de je cours, je long. C'est-à-dire que tu passes ton temps soit fond de court, soit proche du filet, jusqu'à ce que l'un trouve une faille pour faire le point. Il faut quand même avoir une caisse de malade, non, dans ce sport.
Oui, je pense que c'est un jeu assez comme ça basique, comme on dit, mais ça a beaucoup changé. C'est beaucoup le jeu d'avant, du début du badminton, mais aujourd'hui il y a beaucoup plus de stratégies à garder des fois les adversaires très en arrière ou devant. Et ça dépend des salles aujourd'hui, parce qu'en fait on joue de partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on joue une salle en Inde, on joue une salle en France, on joue une salle en Angleterre.
C'est pas les mêmes conditions.
C'est pas les mêmes conditions. Température,
humidité,
l'humidité, ça change beaucoup sur la vitesse du volant. Ouais. Et il y a beaucoup de courants d'air en Asie. Les salles sont pas faites pour le badminton. Et c'est des salles énormes qui accueillent des dizaines de milliers de spectateurs. Il y a la clim.
Ah ouais, ça
et c'est bouger bon. Les volants, il y a beaucoup en air.
Et puis à l'époque, le matériel a dû évoluer. Ton père devait jouer avec des volants en bois ou en.
Ça évolue.
Le papa avec les coulisses, il écoute, il change des plumes.
J'imagine qu'au
Christo Popov dans le Super Moscato Show,
le service est aussi important qu'au tennis.
Beaucoup moins important.
Ouais.
Beaucoup moins important. C'est juste en fait, même dans les. Je crois que c'est dans le règlement, on peut me corriger si je me trompe, mais je crois que c'est juste un engagement. On appelle ça un engagement. Il faut
une mise en jeu. Ouais.
Exactement.
Et alors, maintenant, parlons un peu de l'avenir. Là. Maintenant que tu as battu le numéro 1 mondial, que tu as remporté l'équivalent du Masters, tu te sens complètement capable d'être champion du monde, champion olympique. Ça a déclenché quelque chose, débloqué quelque chose?
Totalement, oui.
Ouais. C'était pas le cas avant?
On se permettait de rêver avant. Maintenant, on se permet d'avoir des objectifs réalistes.
Maintenant, tu sais que c'est possible.
Oui.
Quel est ton objectif à court terme?
Champion d'Europe par équipe dans 2 semaines en Turquie. champion d'Europe individuel et en double avec mon frère un peu plus tard à l'année, ouais. Et champion du monde en fin d'année en Inde.
Être super macro, dépêche-toi parce que ça va... D'après moi, ça va changer. Ça va pas durer longtemps.
Christo, comment tu vis le fait d'être, parce que t'es un peu en concurrence contre ton frère, parce qu'à Paris 2024 en simple, il n'y avait qu'une place et c'est ton frère qui l'a eu. J'imagine qu'à Los Angeles en 2028, je suis pas sûr qu'il y ait un quota supplémentaire qui aura peut-être qu'une place. Ça veut dire que tu joues à la fois en double avec lui, mais au quotidien, la concurrence, c'est pour, avec Alex Lagny aussi, mais avec ton frère, c'est particulier, non?
C'est particulier. Je pense qu'on a, comme je dis souvent, on a beaucoup de chance, peut-être aussi, de vivre ça en tant que frère. C'est une expérience que peu de gens peuvent partager avec leur frère. C'est une concurrence très saine aussi, donc c'est tant mieux. Ça nous pousse encore plus. Je pense qu'on a vu pendant toute notre qualif olympique 2023-2024 où chacun performait et ça poussait l'autre à performer. On ne pouvait pas se permettre en plus d'avoir des downs parce qu'en fait, en double, on devait aussi se qualifier, donc on devait aussi être à 100%. Et c'est pareil maintenant avec Alex qui pousse énormément, qui performe énormément et ça nous a aussi d'une certaine manière poussé à être aujourd'hui là.
Avec Lagny qui est champion d'Europe hein, quand même, ce qui est aussi une autre forme de performance.
Un peu comme les frères lunettes. Hein, un peu voilà. Les frères lunettes.
Ah oui, c'est vrai. Christo, oui. Un conseil pour les débutants, nous au bureau, ça explose le bad. Comment au bureau, il y a plein de gens dans les bureaux qui le midi vont faire du badminton.
Super.
Qui commencent à avoir un bon petit niveau, très amateur. C'est quoi le conseil tactique quand tu débutes pour être sûr de mettre en difficulté ton adversaire? C'est le coller au fond toujours ou est-ce qu'il y a un autre truc quand t'as pas le bagage technique très élaboré quoi.
Moi ce qu'on m'a dit quand j'étais tout petit quand je commençais le bad, c'est il faut jouer sur le revers. C'était le conseil de tout marabout qu'il y avait, donc
parce que t'es plus faible,
ton frère qui sourit en coulisses.
Non, c'est viser le revers quoi qu'il arrive, faut chez un débutant.
Voilà. Voilà.
Très bien.
Est-ce que tu penses que tu vas faire une meilleure saison que l'Olympique de Marseille?
Oui, j'espère quand même parce que
ça s'annonce pas fini la saison.
Elle est pas finie, et ça c'est vrai.
Je suis grand fan de l'OM.
Supporter de l'OM.
Parfait.
Dans la famille, vous êtes tous supporters de l'OM ?
Oui.
Ok. Donc c'est dur, les temps sont durs.
Les temps, ouais, c'est la tempête.
Tu étais devant le multiplex, Bruges ? T'as suivi en direct ou pas ?
J'ai suivi le score en direct cette fois-ci. Mais on était à OM Lens. Et c'était un des bons matchs.
C'est un bon match.
C'est demain, c'est très important, c'est vrai.
Alors l'OM, on en parle à 17h.
Et avec des champions, comment vous voyez la saison?
Quand est-ce que le cirque va s'arrêter? Christo Popov dans le Super Moscato Show. Merci beaucoup
d'être venu.
Merci Christo, bravo. Bonne saison, il y a les championnats de France qui arrivent ce week-end à Caen, si vous voulez aller voir du badminton de haut niveau.
Tu vas en vacances à Barbara cet été? À la plage.
On va plus au sud vers Bourgasse.
D'accord.
Il est numéro 7 mondial et je pense qu'il peut encore monter, Christo.
Monter Christo.
C'est à Marseille, c'est pas loin.
Ça fait un quart d'heure qu'il a fait.
Voilà, c'est comme si un Français remportait le Masters en tennis, ce serait quand même assez exceptionnel.
Il était venu avec toute sa famille, tu te rappelles, avec son papa. Fan du Moscato Show.
J'adore le Moscato Show, ouais.
Alors, ça, c'est un débat pour toi, Pierrot. Entre légende des défenseurs centraux, Thiago Silva, Laurent Blanc.
C'est mes deux préférés, vraiment, pour de vrai. Hein. Puisqu'il y a eu ce France-Brésil au mois de mars, on a fait le match des meilleurs Français face aux meilleurs Brésiliens. Souvent en conservant, on va dire, les époques. C'est-à-dire en comparant des mecs qui ont joué presque au même moment. C'est le cas de Laurent Blanc et Thiago Silva. Mais qui est le plus fort des deux?
RMC, le Super Moscato Show. France, Brésil, c'est qui le plus fort? Laurent Blanc ou Thiago Silva?
La série toute la semaine à l'occasion de Brésil-France jeudi. Aujourd'hui, qui est le plus fort entre Laurent Blanc et Thiago Silva? Arnaud Valadon, deux carrières très riches, hein. Même si très différentes.
Ouais. Thiago Silva, surnommé le monstre au Monstro, 113 matchs avec le Brésil, 8 ans au Paris Saint-Germain, 315 matchs, capitaine emblématique, il a gagné la Copa América en 2019, une Ligue des Champions avec Chelsea en 2021, 7 fois champion de France avec Paris, il a été élu plusieurs fois dans la meilleure équipe de l'année de la FIFA, 2013, 2014, 2015, réputé pour son sens du placement, qualité de relance, mais aussi parfois décrié pour son manque de leadership, toujours en activité à 41 ans à Porto, avec un rêve, disputer une 4e Coupe du Monde. De l'autre côté, Laurent Blanc, milieu de terrain offensif dans les années 80, puis ensuite défenseur central dans les années 90, réputé pour son sang-froid, le président, son surnom, c'est une carrière bien remplie en Ligue 1, Montpellier, Saint-Etienne, Auxerre, Marseille, avec 3 passages à l'étranger, une saison au Barça, 2 à l'Inter, 2 à Manchester United, retraite à 38 28 ans. Parmi les événements forts de sa carrière, doublé coupe au championnat avec l'AJ en 96, vainqueur de la Coupe des Coupes en 97, champion d'Angleterre, dans l'équipe type de l'Euro 92, 96 et 2000, vainqueur de l'Euro 2000. Il a aussi gagné la Coupe du Monde 98, même si Vincent, il était suspendu pour la finale. On se souviendra quand même de son but en or face au Paraguay en 8e. La lumière est venue de Laurent Blanc, s'était exclamé Thierry Gilardi au commentaire. Et pour Thiago Silva, le but iconique, c'est la tête contre Chelsea en 2015 pour arracher la qualification en quart de finale.
Alors, vous votez sur le compte X du Super Moscato Show, Thiago Silva, Laurent Blanc, qui c'est le plus fort? Vincent Moscato.
Quand même que Laurent Blanc a une carrière arrêtée à 38 ans. Bon, Thiago Silva joue toujours à 41 ans, mais plus complète quand même en club, il me semble en sélection. Bon, il a cette finale, il a cette épopée en 98 qui quand même qui marque un homme. Il gagne l'euro.
Oui.
Ah, il gagne l'euro
derrière.
Ah ouais, il gagne l'euro derrière. Non, pour moi, je vais pas m'expliquer. Je vais vous laisser du temps de jeu. Je vais pas m'expliquer. Pour du pain à moudre, mais pour moi, Laurent Blanc, il est devant. Il est devant parce que froid. Je me rappelle ce mec, il appelait le président d'ailleurs à cause de ça. Il te réglait.
Taulier,
quoi. Un mec sur qui tu peux t'appuyer, un mec, t'es jamais déçu, toujours à 15 sur 20. T'es jamais déçu. Un drôle de mec en tant que joueur, physiquement, quand même un coup.
Premier poteau, chaque fois c'est danger.
Mais ouais, non, mais. Jamais d'erreur.
Ah, c'est vrai que tu t'es pas loin.
Pour moi, c'est Laurent Blanc.
Lolo Blanc.
Ok, Eric.
C'est compliqué quand même. Ouais. C'est des anciens partenaires.
Et c'est de toi qui es fâché avec lui.
De quoi?
Imagine que t'es fâché avec lui, tu ne parles plus.
Oui, non. Mais moi, j'ai pas de. Hier, par exemple, Zizou, j'ai joué avec et tout. J'ai toujours plaisir à le croiser. Et hier, pour moi, dans le débat avec Ronaldo, le problème de Ronaldo, c'est que tu vas dans le monde et tu demandes à des joueurs de très très haut niveau de dire qui a été le meilleur joueur du monde de l'histoire. Tu as des mecs qui te citent Ronaldo, beaucoup te citent Ronaldo parce que Ronaldo, il avait un truc quand il était à pleine bourre, il avait un truc extraordinaire. Voilà, il avait une puissance, il avait. Moi, je me souviens de Lolo Blanc justement quand il jouait au Barça avec Ronaldo. Un jour, il arrive en équipe de France, il venait d'arriver Ronaldo, c'était pas Gol Ronaldo qu'on a connu derrière. Il m'a dit, écoute, le petit devant là, tête à tête avec le gardien, il y a toujours but. C'est-à-dire quand il part au but, qu'il est seul contre le gardien, on se tourne, on sait qu'il y a but. Tellement qu'il est fort. Bon, alors pour revenir au débat du jour. Si tu veux, les deux carrières sont pas celle de Thiago Silva me semble plus linéaire parce qu'il arrive en Europe au Milan C directement, hein, oui. Me semble-t-il, c'est ça. Il fait PSG Chelsea, donc il a mangé que son pain blanc en Europe. Il a joué que dans des.
Il y a eu une première tentative qui s'est soldée par un échec. Au Portugal quand il est très jeune et ensuite il retourne
au Brésil, après il revient.
Il part en Ukraine. Il part en Ukraine, il tombe gravement malade à Moscou. Il était malade en Russie.
Lolo, quand moi je l'ai connu même milieu terrain offensif, milieu terrain défensif, même en équipe de France. Derrière il recule. Il va à Naples un an quand les Français n'allaient pas trop encore à l'étranger. C'est difficile. Il revient au Nîmes Olympique. Il fait Saint-Étienne Auxerre. Et de partout où il est passé, notamment Auxerre, il fait le doublé. C'est-à-dire que même dans des équipes qui n'étaient pas programmées et qui n'étaient pas des grosses équipes, il a été très performant et il a gagné. Après, champion du monde, champion d'Europe dans la foulée. Derrière, techniquement, fort, très fort. Moi, c'est difficile de pas mettre Lolo Blanc pour moi. Maintenant, moi, j'ai toujours aimé Thiago Silva et j'ai toujours dit que il était taillé un peu durement et c'était pas toujours très juste ce qu'il prenait parce que moi, j'aimais bien le joueur parce que il était très fort dans tous les deux domaines aussi Thiago Silva. Bon, alors c'est un peu le jeu du débat du jour. C'est entre deux très bons. Moi, j'ai une préférence pour Lolo Blanc parce que la classe. Et puis surtout
il marquait beaucoup de buts hein.
Il a des stats
Montpellier démarque quasiment
Ligue 1
il met 130 buts en carrière donc 81 non, même, en Ligue 1 même, 81 en Ligue 1
même, non il est même meneur de jeu au début après il recule numéro 6 et donc voilà, moi je vais mettre une préférence pour Lolo parce que c'est poulet mais c'est dur de départager les deux quoi, tu vois. Mais bon, c'est un peu le but du débat,
et on scramble qui c'est qui gagne sur les deux.
France, Brésil, qui c'est le plus fort
Attends, on les départage.
Je pense que c'est Thiago aussi.
Non, mais Lolo, attends, Lolo est très intelligent. Qu'est-ce que vous racontez?
Oui, je déconne.
C'est une intelligence, ce Scrabble.
Mais c'est de culture, de
vocabulaire.
Ça mélange.
Donc, France-Brésil, qui c'est les plus forts?
Je suis pas sûr que Lolo gagne, mais en fait.
Pain à moudre, si tu le lis.
Pain à moudre.
En attaché, ça fait combien de points, ça?
Pain, ça fait trop le coup, au Scrabble.
Pain,
PIN en plus, ouais. Donc, qui c'est le plus fort, Thiago Silva ou Laurent Blanc, Stephen Brun?
Et moi, je crois que je vais choisir Thiago Silva. Alors, Laurent Blanc a cette grande qualité de mettre beaucoup de buts pour un défenseur, mais moi, il y a quelques petits bémols dans la carrière de Laurent Blanc. C'est que son premier passage à Naples, ça marche pas, il rentre en France. Son deuxième, quand il va à Barcelone, c'est pas un franc succès non plus, parce qu'il arrive, c'est Cruyff qui le recrute. Le jour où il signe son contrat, Cruyff se barre. Il est pas titulaire indiscutable à Barcelone, il fait qu'une saison et il part parce qu'il a peur de louper la Coupe du Monde, donc il rentre en France à Marseille. Et que le vrai bémol de la carrière de Laurent Blanc, c'est que 22 matchs de Ligue des Champions. Ses premiers matchs de Ligue des Champions, c'est avec Manchester United à 36 ans.
Ça manque.
À 36 ans, et je crois que c'est un énorme manque. Thiago Silva, c'est 105 matchs de Ligue des Champions. Thiago Silva, Eric l'a dit, c'est que des énormes clubs. C'est que des énormes clubs. Donc ça me gêne un peu. Après, en équipe nationale, forcément, la Coupe du Monde, elle prend un point important dans la carrière, mais je crois que moi, je vais partir sur la carrière de Thiago Silva qui s'est imposé. Et ensuite, et là, peut-être que je me trompe et que je fais vraiment une énorme erreur, et peut-être que Pierrot et Eric vont me corriger, j'ai quand même l'impression que à leur prime et à leur poste, je crois que Thiago Silva, à un moment donné, a été le meilleur défenseur central du monde. Je suis pas sûr que Laurent Blanc dans sa carrière ait été le meilleur défenseur central du monde.
Mais on n'a pas tenu compte d'un truc quand même dans notre débat.
Dis-nous.
C'est que la plus grande, alors il n'était pas sur le terrain sur ce fameux match contre l'Allemagne, mais la plus grande catastrophe du
Thiago Silva, le Brésilien,
il est dans l'équipe quand même.
Ah bah non, c'est mauvais.
Je parle pas de ce match, je parle de la Coupe du Monde. C'est une catastrophe cette Coupe du Monde.
Oui, ça vous arrive
jamais de dire des conneries, vous?
Thiago Silva ou Laurent Blanc,
qui est plus fort?
Vous êtes sérieux, quoi, sur la carrière ensemble?
Non, le joueur, le joueur.
Thiago Silva. Mais Thiago Silva, il a tout gagné. Laurent Blanc, tu parlais de finale de Coupe d'Europe.
Oui.
Si tu choisis, mais Laurent Blanc, il en a joué une finale de Ligue des Champions.
Il est pas
de Ligue des
Champions, Thiago Silva,
non.
Jérôme.
Bon, il a regardé à la télé. Qui?
Thiago Silva n'est pas champion du monde.
Thiago Silva, tu
sais pas. Alors, dans ces cas-là, si tu vas par là, il a pas joué la finale, Laurent Blanc.
Mais il est champion du monde, Laurent Blanc.
Non, mais d'accord, il est champion du monde, mais
après 20 ans, si on connaît quand même à juste titre, oui, il n'a pas joué la finale.
Moi, je veux bien qu'on soit chauvin, mais si vous voulez,
vous faites un débat de
Laurent Blanc à la place de Thiago Silva.
Non, mais ton argument, il n'est pas beau, tu dis il a tout gagné. Ben non, il n'a pas tout gagné.
Bah ouais, la Coupe du Monde.
Si vous voulez, il a gagné la Copa América.
Championnat d'Europe,
il a gagné des champions.
Si vous avez parlé de foot, vous continuez dans des émissions de deuxième division.
Tu peux déjà gagner la Ligue des Champions. La Coupe du Monde.
Résultat des auditeurs du Super Moscato Show. Vous votez Laurent Blanc à 75% et Thiago Silva à 25%.
C'est les meilleurs débats, ça.
Alors, c'est mes deux préférés, mais je pense qu'ils pourraient pas vraiment jouer ensemble parce qu'ils ont un peu le même profil. Faudrait mettre un stopper avec.
Oui, tout à fait. Tu es très technicien, je vois.
Un Marcel de Sailly ou un Marquinhos.
Dans un instant, le journal moyen, première édition, va partir sur la Lune, autour de la Lune. Ça a passionné le Moscato Show, cette mission Artemis 2.
RMC. 15h-18h. Le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Vous êtes sur RMC, c'est le meilleur du Super Moscato Show et à 15h45, c'est le journal moyen, première édition.
Oui. La première édition, l'actu, la culture, les médias, le point Céline. Oui, Céline, tous les jours on en parle, c'est la folie. On va faire le tour de la Lune.
c'est pas commun. Et puis Opta, Pierrot, a désigné le vainqueur de la Ligue des Champions. C'est comme ça en 2026 aujourd'hui. Ouais. C'est l'intelligence algorithmique, comme on dit.
C'est mieux que demander à un coq ou une poule ou un poulpe.
Ouais. Savoir
qui va gagner la Coupe du Monde.
Le poulpe, il était bon.
Ouais, le poulpe, il était bon.
Oui, le problème.
C'était un poulpe intelligent, il avait un gros cerveau.
Mais les poulpes sont très intelligents. C'est plus intelligent que rugbyman.
Je suis rentré une fois avec un poulpe vers 5 ans.
Je vais te dire, tu sais quoi,
il parlait le poulpe.
Tu prends un poulpe, tu le mets 6 mois sous une barre, il peut jouer au rugby.
Il fait bien diarrhée,
j'imagine.
C'est bien barré. Vous écoutez RMC, c'est le 2604e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC. Toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
C'est le point Céline. Et moi, j'aime bien ce point Céline parce que j'adore le jingle produit par Suzanne. C'est jingle.
Si tous appellent, les amis, les amours aussi passent. La base.
Je capote.
Je capote.
C'est mieux quand c'est Céline qui chante quand même. Ouais. Je rêve qu'un jour elle soit dans une voiture, dans un taxi dans Paris, qu'elle entende ce jingle. Non, mais c'est quoi les Français, ils me font quoi là?
Ça peut arriver.
Ça peut arriver, effectivement.
Oui. Ah, bien sûr que ça peut arriver.
Elle ne se reconnaît pas. Hein.
C'est peut-être elle qui demandera, mais mettez-moi le Moscato Show s'il vous plaît.
Elle a l'air de pas trop se prendre la tête.
Rigoler,
non?
Bah oui. Ce matin, 10h, les premiers billets étaient disponibles à la vente. Vincent, c'était de la folie. C'était 10h, il avait fallu être tiré au sort avant. Je sais que ta famille était sur le coup.
Tout le monde.
Zéro pointé. Céline en concert au Paris La Défense Arena à partir du 12 septembre. Il fallait avoir reçu le petit mail hier. C'était le stress. Les gens ont reçu un mail vers 16h. Vous êtes sélectionné pour pouvoir tenter votre chance. C'est quand même un process de folie. Donc, si vous n'avez pas eu si vous n'avez pas été tiré au sort, il y a une mise en place, la mise en vente générale sur les plateformes de revente. 10h sur les distributeurs, 10h vendredi. Et on en sait plus, on apprend des petits détails sur la capacité du concert, le nombre de spectateurs. C'est le PDG du Paris La Défense Arena, monsieur Frédéric Longuepé, qui travaillait dans le foot avant, il était président d'un club de foot. Taylor Swift, c'était 45 000 places en 2024. Là, on descend à 30 000. Parce qu'il y a des places assises. Tout est assis, Vincent.
Ah oui.
C'est 30 000, a précisé monsieur Longuepé. Donc, c'est pas mal, hein. Ça reste énorme, hein.
Tout est assis.
Tout est assis, ouais.
Ah bon?
Ouais. Tu pourras pas faire de pogo si tu veux. Tu pourras pas faire de pogo, Vincent.
Alors, après, les gens vont se lever. Les gens vont se lever.
Exactement, les gens vont pas rester assis.
Je précise que pour tous ceux qui sont déçus, qui n'ont pas de place, il me reste, à Toulouse, je passe le 23. Il vous reste des places.
Le mec, c'est pour pas rassurer.
Et il chantera, Céline, bien sûr.
Les mecs qui parlent comme ça maintenant, c'est une expérience. Vivez l'expérience.
Alors, du coup.
Assis ou debout?
Ah, si.
Du coup, les choses sont bien faites. C'est quand même pas mal cette histoire. Donc, il y a beaucoup de frustrés là, 10h du matin ce matin. Là, bing! On a reçu un petit urgent AFP à l'agence France Presse. Les nouveaux concerts, 6 nouvelles dates, Vincent. C'est tombé, 6 nouvelles dates.
Ouais, c'était prévu ça.
C'était prévu le vendredi 18 et 25 septembre.
Et le vendredi 2, 9 et 7 octobre et 17 octobre.
Elle est là 8 semaines. Elle est là 8 semaines. Elle peut se faire
500 000 personnes.
Deux dates par
oui, voilà, c'est dates sous, par sous réserve. Sous réserve que sa voix et sa maladie soient maîtrisées.
Ce moment-là, dit ça va, je l'ai eu au téléphone. J'ai vu le prix des places, crois-moi, elle est en forme.
Je crois qu'elles sont pas si chères que ça.
C'est pas
de nos jours, c'est devenu complètement fou.
Le prix des places quand t'allais la voir à Las Vegas. Après, j'ai vu des reportages.
C'est que même les gens qui sont pas fans de Céline Dion, c'est une sorte de mission d'avoir une place, comme un objet de collection. T'as plein de gens qui sont pas fans de
Mais Pierrot a raison l'autre fois quand il dit mais pourquoi y aller quand tu n'es pas fan? Laisse les fans y aller.
Ça me passe même pas par la tête.
C'est devenu. Non, mais là, c'est de.
Crois combien ils ont mis de toi.
Ah ben oui, mais laissez les vrais fans, mais bien sûr.
Bien sûr.
Mais bon, moi, c'est pour mes filles, moi, j'irai pas.
Si je t'entends à vous.
Non, mais s'il y a une place qui reste, j'y vais pour accompagner les petits, autrement de.
Pour accompagner Denis.
Ouais, voilà, Denis.
Non, il est mal de
Denis. Denis, c'est une vraie. Non, lui, par contre, c'est une vraie cagole. Il y va juste pour dire qu'il y était, ça c'est sûr.
Allez, sans transition, un nouveau jingle, c'est le jingle espace, direction l'espace. On aime bien y aller, nous.
Houston, we have a problem.
Do you think?
Houston, we have a problem.
Do you think?
Ah ouais, c'est un problème là-haut, quand tu leur dis ça, ils comprennent pas, Houston.
Pardon,
pas dit de répéter, s'il vous plaît.
Toujours fascinant, on adore ça, la conquête spatiale. Les quatre astronautes de la mission Artemis 2 sont de retour vers la Terre. Ça y est, Vincent,
c'est, là, c'est fait,
sont en train
fait,
de
fait,
revenir. C'est vite fait. C'est un métier sympa quand même. Hein.
Quand tu vas sur la Lune, c'est un voyage.
Ils sont quatre. Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman et Jeremy Hansen. Ils sont devenus les êtres humains s'étant aventurés le plus loin de la Terre.
Ah oui, c'est de l'autre côté,
ouais. Ça veut dire que là, quand ils se réveilleront le matin dans leur vie, ils diront, moi, je suis un des quatre êtres humains qui est le plus loin de la Terre, c'est pas mal.
La face, la face cachée de la Lune.
Encore une fois, moi, ça m'arrive en soirée d'aller très très loin derrière la Terre.
Et oui, tu vois, t'as des points similaires encore. Ouais. Ils ont réalisé le premier vol autour de la Lune, c'est dans la conquête de l'espace, c'était le premier depuis 72. Ils sont allés à plus de 406 000 km de la Terre. C'est incroyable.
Combien ils ont mis de temps?
4-5 jours. 8 jours, non? Je sais plus, ouais. 7-8 jours, ça fait une semaine qu'on en parle. Toujours très impressionnant, c'est ça moi qui me fait peur. Et toi, pareil, on t'avait perdu de vue quelques temps. Il y a une coupure obligatoire, silence radio de 40 minutes à cause du passage derrière la Lune. C'est toujours un truc de fou, c'est-à-dire pendant 40 minutes,
t'as la pression,
il y a zéro communication. Ils sont à Houston, dans leur petit bureau à Houston, et ils attendent que bien d'entendre la voix de l'astronaute de Christina qui va peut-être leur parler. Et puis d'un coup, au bout de 40 minutes, c'est toujours incroyable quand on vit en direct, on entend le fameux, ça c'est éternel, le fameux Houston.
We have you the same.
Voilà, ça y est.
So great to hear from Earth again.
Ils sont là, détendus, ils donnent signe de vie. Le portable est réparé, Vincent. Ils ont remis de la batterie dans le téléphone.
C'est un Bouygues qu'ils ont.
Ça doit être quand même un truc de fou.
Ah non, ça doit être. Ces gens-là ont un privilège. Enfin, ils se la gagnent parce que je pense que.
Ils ont travaillé à l'école, non?
Ouais, ils ont travaillé un peu à l'école. Non, mais
l'école, ils ont
ça veut dire, en vérité, ils ont bossé pendant 40 ans.
Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écart dans leur vie sociale non plus.
Non, ils sont.
C'est aussi pour ça que Pesquet est une telle star, c'est qu'il a réussi à vulgariser tout ça de manière fantastique. Ouais. Vous pouvez lire sa BD, vous comprenez tout. Est-ce qu'il faut travailler pour aller là-haut, hein.
J'ai vu un reportage là sur France 2, là, sur cette expédition, et ils veulent chercher de l'eau, quoi. Ils veulent aller là-bas, de l'autre côté, pour savoir de l'autre côté de la Lune s'il y a vraiment de l'eau, quoi. Et normalement,
ils ont pris des tas de photos pour pouvoir décrire auprès de tous les scientifiques qui sont restés sur la Terre pour pouvoir préparer au mieux une prochaine expédition. Vincent, image insolite, je ne sais pas si vous l'avez vu. À un moment, c'est une caméra fixe, hein, dans la capsule, etc. Il y a un pot de Nutella qui est apparu.
Ah bah ouais.
Ils sont gourmands. Gourmand et petit problème de toilette également avec une légère fuite, Vincent.
Mais ça, c'était au décollage.
Ça, c'était au décollage, ouais.
Ça a été réparé.
C'est bouché, non?
Ça, c'est le problème, ça.
Parce que tu peux pas appeler de plombier.
Dès que tu as un apesanteur, là, tu vas passer les colombelles. Hein.
La merde,
oui. Non, ça va aller.
Qu'est-ce que c'est qu'ils volent en haut au plafond?
Allez, sans transition. C'est pas la conquête spatiale, mais quand même, c'est une sorte d'intelligence artificielle. C'est comme ça, en Ligue des Champions 2026, les outils de prédiction s'expriment. Début des quarts de finale ce soir, et Opta, avec son outil de prédiction, a publié ses dernières estimations, le pronostic pour le vainqueur. Eh bien, selon Opta, c'est Arsenal qui est favori à la victoire en Ligue des Champions cette saison, qui n'a jamais gagné cette compétition quand même. 27,96% de chance de soulever le trophée. Le Bayern est deuxième, 20,88%. Le Barça, 17,39%. Et Pierrot, ton Paris Saint-Germain est loin derrière, 11,56%. Ouais. Je vous rappelle les critères.
Ça repose sur
des modèles statistiques qui intègrent la forme actuelle, les données avancées et le parcours potentiel, le tableau. Plus ou moins difficile jusqu'à la finale.
Paris l'année 4e. Dernière, à la même époque, le PSG.
C'est les datas qui débutent aussi.
Ouais.
Voilà, Pierrot. Voilà. Le volet de Ousmane Dembélé.
Pierrot, il a tout compris, Pierrot.
Eric, j'imagine que tu es rassuré quand tu vois ça, Eric. Opta te rassure.
Oui, bien sûr. Je dors bien la nuit, moi.
C'est l'intelligence artificielle marseillaise. Ça n'a rien. Écoute-moi, on l'a fait la dernière fois, on a dit entre le Toulon de Bernard Laporte et le Stade Toulousain de maintenant, qui allait gagner. On a écouté.
On a demandé à l'intelligence artificielle.
De l'intelligence artificielle. C'est impressionnant.
Ils ont déroulé le match.
Ils ont déroulé le match minute par minute.
C'est
Toulouse
qui gagne.
Non, c'est Toulon qui gagne.
Toulon qui gagne.
21.
Avec une action de Johnny Wilkinson.
Un truc. Ouais,
vous avez fait quoi avec un match de plusieurs générations?
On dit qui gagne Toulon 2014 face au Stade Toulousain actuel.
Voilà.
Et il te répond.
Il a répondu très, très poliment. Bonjour Vincent. Il a dit, voilà, je te propose. Ouais, voilà.
Et vous le croyez donc?
Ben oui,
D'accord. Donc tout va bien, tout va bien.
Parce que nous, Eric,
tout va bien.
Internet, ça sert pas qu'au porno, Eric. Donc nous, on le croit.
C'est vrai qu'il y a beaucoup dans les médias cette tendance à faire des prédictions à l'intelligence artificielle qui ne sert pas du tout à ça. L'intelligence artificielle, c'est un super moteur de recherche, en gros. Hein.
Mais et voilà, mais.
C'est rien de. Alors, quand même.
Je vais aller plus loin,
mais là, ça va.
Oui, mais pas du futur.
Eric.
Pas du futur.
Oui, mais sur la base de données actuelles et celles d'avant.
Ça va. Je vais même aller plus loin. On a demandé à l'intelligence artificielle. Qui dans le Super Moscato Show va mourir en premier. Et comme il y a Eric là dans l'émission, je ne peux pas parler. Il est là demain, Eric, non. Parce que quand il sera pas là, on en parlera. Ouais. Et voilà,
c'est morbide votre émission, en fait. Totalement morbide.
Ah ben non, mais.
Et en plus,
non,
on a dit de quelle manière. De quelle manière.
Alors, écoute-moi, je vais pas imaginer ça.
Eric va vite changer
derrière toi, Eric. Moi, c'était
Eric
énorme.
Va vite changer ta deuxième hanche. C'est vaut mieux.
Non, mais tu sais quoi moi, je sais qui c'est qui partira en premier. J'ai parié déjà.
Et oui, on aime l'espace.
Dans la deuxième édition du Journal Moyen.
Oui, alors, bah, ce sera une des spécialités du Journal Moyen, c'est le lundi. Et le lundi, tu le sais, Pierrot, c'est sorti de week-end. Il y a plein de saucisses, plein de directs. Les grandes gueules du sport, du Christophe Cessieux, du Denis Charvet. On va se régaler, c'est spécial casserole du week-end.
Deuxième édition à 16h45 et après les infos de 16h, Dembélé, un ballon d'or. Allez. Peut-il faire ça? À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h.
Le meilleur du Super Moscato Show.